le risque le plus élevé pour le hooliganisme, c'est pas tellement dans le stade, c'est pas tellement dans la fan zone qui sera très bien sécurisée. Le risque est plutôt autour, dans le centre-ville.
Il y a des variables locales. Est-ce que beaucoup de personnes vont se déplacer? Est-ce que ces personnes sont dangereuses ou pas? Et il y a la situation française, d'état d'urgence, de fatigue de la police.
Le hooliganisme est un problème qui ignore les frontières, mais la réponse au hooliganisme, elle, connaît trop bien les frontières, c'est-à-dire qu'il y a parfois un manque de coopération.
Les pouvoirs publics vivent avec la hantise que ne se reproduise l'attentat pourtant raté du Stade de France le 13 novembre dernier. Voilà pourquoi c'est avec une extrême minutie que depuis plus d'un an, les forces de police, de gendarmerie, du renseignement se préparent à l'Euro 2016. Le GIGN par exemple et sa cellule cadeau ont sillonné chaque enceinte sportive, chaque lieu d'entraînement aussi, les ont truffés de caméras de surveillance, de safe zone et disposent des plans architecturaux d'une précision parfaite. Chacun est prêt à intervenir à la moindre alerte. Ainsi, il est très peu probable qu'un djihadiste armé parvienne à pénétrer à l'intérieur au moins de l'un des 10 stades qui accueillera la compétition. Mais comme le répète le ministre de l'Intérieur, le risque zéro n'existe pas et c'est sans doute à l'extérieur de ces arènes sportives et des fan zones que tout va se jouer. Et aux côtés du terrorisme, il y a un deuxième péril auquel les organisateurs sont confrontés. Il s'agit de la violence hooligan qui gangrène les scènes footballistiques d'un grand nombre de pays européens. 5 matchs sont d'ores et déjà classés à très haut risque. La France a interdit le territoire national à 3000 supporters et l'entrée des stades à au moins 322 Français. Mais les troubles ont déjà débuté hier soir sur le Vieux-Port à Marseille où l'Angleterre va rencontrer samedi la Russie. Ces affrontements, on l'a vu hier, n'ont pas éclaté au stade Vélodrome mais bien à l'extérieur, ce qui les rend encore plus périlleux. Hooligan, l'autre risque sécuritaire de l'Euro, c'est un reportage signé Bruno Caden. Pour écouter et commenter ce magazine de la rédaction, nous avons invité, une fois n'est pas coutume, deux confrères, deux journalistes sportifs. Éric Champel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à France Football et puis nous sommes aussi avec Anthony Cerveau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vous-même journaliste à SoFoot et puis nous sommes aussi avec Bruno Caden, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir. Alors, vous êtes normalement avec nous en duplex de Bastia. Alors, théoriquement, vous devriez nous dire que vous êtes allé enquêter, je le disais d'ailleurs tout à l'heure à Hervé Gardette, en Croatie et en France, dans la ville de Lens, qui est l'une des 10 villes qui va accueillir les compétitions de l'Euro 2016.
Oui, alors la Croatie tout d'abord parce que c'est un pays impacté par le hooliganisme depuis des décennies. Une guerre est même née dans un stade à Zagreb, juste avant la guerre en Yougoslavie, entre le Dynamo de Zagreb et l'Étoile Rouge de Belgrade. Ça a été le premier élément qui a déclenché la guerre en ex-Yougoslavie. Et puis Lens, pourquoi? Parce qu'en 1998, des hooligans allemands avaient très violemment frappé un gendarme, le plongeant dans le coma pendant de longs jours. Et Lens va accueillir un match classé à risque entre l'Angleterre et le Pays de Galles. L'idée était donc de voir à 3 niveaux, au niveau local, au niveau national, au niveau international, comment on pouvait lutter contre le hooliganisme durant cet Euro.
On va écouter votre magazine, Bruno Caden. Vous avez d'abord rencontré, Bruno, le commissaire Antoine Boutonnet, qui est chef de la division nationale de lutte contre le hooliganisme.
Alors d'abord, la division nationale de lutte contre le hooliganisme, par le biais de son point national d'information football, travaille maintenant depuis plus de 3 ans sur l'événement. Alors elle travaille bien entendu avec l'organisateur, la SAS Euro 2016, il s'agit d'une coproduction de sécurité. Elle travaille également avec l'intégralité de ses correspondants hooliganisme à travers l'Europe par le biais notamment du réseau des points nationaux d'information football. Dans chaque pays européen, nous avons l'équivalent de la division nationale de lutte contre le hooliganisme par le biais des points nationaux d'information football, c'est-à-dire que ce sont des policiers qui sont spécialisés dans le suivi des supporters, dans toute la problématique supporters et rencontres de football avec le spectre large, et également du suivi des supporters à risque. Alors, on mettra en place un centre de coopération policière internationale qui va regrouper l'ensemble des policiers des 24 pays. Donc, ce sont des policiers qui sont spécialisés dans le suivi des supporters. Leur mission sera d'accompagner les supporters qui viendront dans le cadre de la compétition et aider les autorités de police locale dans l'accompagnement de leurs supporters et aussi pour repérer des supporters qui pourraient éventuellement poser des problèmes de troubles à l'ordre public pour pouvoir concentrer notre action sur ces gens-là.
Avec en amont des interdictions d'entrée sur le territoire pour certaines personnes?
Alors vous avez des personnes qui sont interdites de stade, bien entendu en France, mais c'est la même chose dans des pays étrangers. Alors il y a des législations différentes, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs la France milite pour qu'il puisse y avoir des interdictions européennes d'interdiction de stade. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes en contact évidemment permanent avec nos collègues étrangers, et vous avez des personnes qui sont interdites de stade dans leur pays, qui ne pourront pas venir dans le cadre de la compétition. Et en ce qui concerne des personnes qui tout de même essaieraient de venir en France alors qu'elles sont interdites de stade dans leur pays d'origine, bien entendu, nous avons donc les policiers physionomistes étrangers qui seront là, qui les connaissent bien, qui assurent le suivi de ces personnes de façon continue et régulière, et qui seront en mesure de pouvoir les repérer et d'aider les autorités de police locale à pouvoir les neutraliser.
En cas d'ambiance peut-être pas tendue, mais un petit peu à la limite, vos collègues étrangers qui parlent la langue auront un rôle peut-être d'apaisement dans ces cas-là?
C'est un rôle important, c'est surtout de faire l'interface avec les supporters, d'assurer une liaison. Il faut discuter avec les supporters, il faut également leur donner un certain nombre d'informations pour justement gérer au mieux les flux de supporters. Je crois que l'important de ces policiers qui viendront sur le territoire national pour encadrer leurs supporters, c'est justement d'assurer ce dialogue permanent, continu. Nous sommes particulièrement vigilants sur l'ensemble des matchs. Maintenant, c'est vrai que sur l'intégralité des rencontres sportives de l'Euro 2016, nous en avons ciblé 5 qui pourraient potentiellement présenter un risque de trouble à l'ordre public. Alors dans le cas de la coproduction de sécurité avec l'organisateur, à savoir la SAS Euro 2016, nous avons évidemment travaillé sur ces rencontres et mis en place un dispositif commun, conjoint, pour pouvoir sécuriser ces rencontres et que ça soit la fête du sport qui l'emporte sur celle de la violence, bien entendu.
Stade Bollaert à Lens. C'est dans l'enceinte mythique du Racing Club de Lens que va se disputer le match Angleterre-Pays de Galles. Une rencontre à risque qui fait déjà beaucoup travailler la mairie ici à Lens et la préfecture à Arras.
La priorité d'abord, c'est d'éviter que les hooligans anglais ne viennent en France.
Étienne Deplanque, directeur de cabinet de la préfecture du Pas-de-Calais à Arras.
Les Anglais ont quand même beaucoup progressé ces dernières années. Ils ont un dispositif d'interdiction de stade et d'interdiction de déplacement lors des matchs qui est très efficace. Donc on a à peu près un public de 2000 hooligans anglais qui, les jours de match de l'Euro 2016, seront assignés en quelque sorte à résidence en Angleterre. Ils ont l'obligation de pointage. Déjà, ça nous permet d'écarter les plus radicaux. Ensuite, on en a d'autres que les Anglais connaissent, et l'objectif, c'est de les bloquer à la frontière, qui ne montent pas dans le Eurostar, qui ne montent pas dans les bateaux pour rejoindre Calais. Nous avons la possibilité, d'ailleurs, nous, Français, d'empêcher l'arrivée de toute personne pouvant troubler l'ordre public. Donc là, il y a tout un enjeu de bonne fluidité de l'information et de réussir d'arrêter un maximum de hooligans dangereux avant qu'ils ne pénètrent. Une fois qu'ils sont sur le territoire français, nous avons un dispositif de spotters, c'est-à-dire de policiers britanniques spécialisés dans le hooliganisme, qui connaissent donc leur public, qui seront déployés à l'entrée du stade pour pouvoir repérer, mais aussi nous aider pour savoir quel type d'interpellation il faut faire, quel type de maintien de l'ordre face à un public qui n'est pas français et qui n'a pas forcément les mêmes réactions que les supporters français. Donc voilà comment on compte repérer et éviter les choses. Et puis au-delà de ça, de manière plus générale, pour que ça se passe bien, et c'est bien l'enseignement de 98, il faut qu'on traite bien en amont les questions de consommation d'alcool et de circulation dans Lens, qui est à l'échelle de l'euro une petite ville où tout est dans tout. Le stade est en plein centre-ville, à côté de la gare, donc c'est vraiment dans un tout petit périmètre que tout ça va se jouer, ce qui complexifie un petit peu les choses pour nous. Mais le risque le plus élevé pour nous, c'est pas tellement dans le stade pour le hooliganisme, c'est pas tellement dans la fan zone qui sera très bien sécurisée avec une palpation à l'entrée en raison plutôt là cette fois-ci du risque terrorisme. Le risque est plutôt autour, dans le centre-ville, lié à l'alcoolisation, et avec des hooligans dont certains n'ont tout simplement pas de billets. C'est là que les choses sont peut-être un petit peu plus risquées, et pour lequel, évidemment, nous aurons une attention toute particulière dans le déploiement des forces de police pour prévenir tout trouble.
Ça peut être la veille des matchs aussi.
Oui, ça peut être la veille des matchs. Il faut savoir que les Anglais, on anticipe qu'ils vont arriver a priori la veille. Hein, et d'ailleurs, ne repartiront pas le jour même du match, mais beaucoup repartiront le lendemain matin. Non, ce qui veut dire pour nous un effort de sécurisation qui n'est pas sans concentrer sur une dizaine d'heures, hein, mais sur presque 36 heures. Donc ça, c'est un élément à avoir en tête. D'autant plus que beaucoup d'Anglais et de Gallois, pour le match principal du 16 juin chez nous à Lens, eh bien, viennent de Bordeaux, viennent de Marseille, puisqu'il y aura eu des matchs avant. Ils vont en quelque sorte se déplacer beaucoup en camping-car d'ailleurs et auront vocation à repartir autre part en France. Donc d'une certaine manière, beaucoup de supporters vont prendre leur temps. Et donc on va avoir une arrivée progressive et un départ progressif de Lens.
En 1998, lors de la Coupe du Monde à Lens, un gendarme, Daniel Nivelle, avait été violemment attaqué par des hooligans allemands, le laissant dans le coma entre la vie et la mort pendant de longues semaines. Pour cet Euro, le 16 juin, Lens accueille le match à risque Angleterre-Galles et tout doit bien se passer. Pierre Mazur, adjoint à la sécurité au maire de Lens.
Nous avons reçu la fédération anglaise, nous avons reçu la fédération galloise. Ils sont encadrés par leurs propres services de sécurité privée. Et on nous a assuré que c'était des gens qui venaient faire la fête et non pas casser. Tout prévoir, c'est impossible, monsieur. La sécurité absolue n'existe pas. Mais en tout cas, on essaye de prévoir le maximum de ce que l'on peut prévoir, eu égard d'ailleurs à l'expérience lensoise. C'est pas une première pour nous. On a déjà eu aussi, pas des fanzones, mais des grands rassemblements, quand Lens est remonté en première division, quand on a été champion, etc. Tout ça, ça a été spontané. On a la chance à Lens quand même, dans ce pays minier, ce pays ouvrier, d'avoir des gens, des hommes et des femmes qui vibrent au son du Racing Club. Et ça, pour nous, c'est une grande chance. Et ce n'est pas des gens qui sont à problème. Au contraire, c'est des gens qui attendent l'Euro 2016 pour faire la fête. Alors, on a mis la barre assez haut. Je l'ai fait volontairement. On aura un agent pour 100 spectateurs. C'est-à-dire qu'à un centième, les jauges à 10 000 spectateurs, ce sera 100 agents de sécurité et qui auront en charge de palper les gens. Il y aura des détecteurs de métaux. Il y aura une consigne pour les gens qui viendront avec des sacs à dos, etc., pour qu'ils ne puissent pas rentrer dans la fan zone. Et j'insiste, ils n'y rentreront pas avec des sacs à dos. On aura bien sûr les services de l'État qui seront à l'extérieur, notamment la police, la gendarmerie, et à l'intérieur, avant chaque ouverture de la fan zone, nous aurons le service de déminage avec des chiens. Toutes les précautions ont été prises par la ville et par l'État. On fait des réunions régulièrement avec les commerçants et les débits de boissons. Ils savent qu'il y a un arrêté anti-alcool sur la voie publique, qu'ils n'ont pas le droit de verser de l'alcool sur la voie publique, et en tout cas la consommation sur la voie publique est strictement interdite. Ils font ce qu'ils veulent à l'intérieur. Alors cet arrêté n'est pas fait pour tomber sur le premier supporter qui va boire son demi-bière, c'est pas ça. Mais cet arrêté est surtout fait pour les services de l'État, afin qu'ils aient une base juridique où, au cas où il y aurait des débordements. Vous pensez bien que toutes les dispositions sont prises. Vous êtes dans une salle annexe du PC qui sera dans la grande salle en face, où on aura un représentant de chaque service de l'État, la police, la gendarmerie, le SMUR, le SAMU, les services d'incendie et de secours, les services techniques de la ville, les élus en charge du sport, etc., etc. Donc il y aura un vrai PC qui sera installé, y compris avec un représentant de la préfecture et de la sous-préfecture. J'ai la charge de coordonner et je coordonnerai. J'ai la chance d'avoir quelques expériences dans le domaine des grands rassemblements.
Les Britanniques qui sont venus ici vous ont dit qu'a priori ça se passerait bien entre Gallois et Anglais ou pas ?
Alors, ils nous ont parfaitement rassurés. Les gens qui viendront, ce sont des gens pour faire la fête. Ils seront encadrés par leurs propres services de sécurité et ils nous ont assuré que ce sont des gens qui sont venus pour faire la fête. Vous savez, les Gallois, ils sont contents qu'il y ait l'Euro. Hein. Donc, on va tout faire pour que ce soit la fête. Et à Lens, on sait faire, monsieur.
Mais pour que la fête ne soit pas gâchée, il faut bien connaître et maîtriser le phénomène hooligan. Philippe Broussard, journaliste et auteur de Génération Supporter.
Toute la difficulté est d'avoir suffisamment de policiers capables de connaître le risque hooligan. C'est-à-dire que, contrairement à ce que le grand public imagine bien souvent, ça ne se limite pas à des groupes de gens qui passent leur journée à boire de la bière et, une fois très énervés, se mettent à taper sur tout ce qui bouge. C'est plus compliqué que ça, le hooliganisme. C'est une affaire de spécialistes. Vous avez des gens qui vont arriver de l'étranger, des pays de l'Est, d'Allemagne, peut-être aussi d'Angleterre, et qui, quelque part, sont des guerriers des stades, ou se conçoivent comme tels, c'est-à-dire qu'ils sont dans une logique d'affrontement avec le groupe rival, pour montrer leur prédominance dans ce monde très particulier qu'est le hooliganisme. Donc il y a des gens qui seront là pour ça. Or, les policiers spécialisés dans le repérage de ces gens-là existent en France, peut-être pas en nombre assez important. D'autres seront là en renfort, d'Allemagne, d'Angleterre, comme ça se fait très souvent. La difficulté est, encore une fois, la présence de pays nouveaux pour les policiers occidentaux, avec des individus qu'on n'a pas forcément l'habitude en Europe de l'Ouest de gérer et de repérer. C'est une collaboration difficile à mettre en place parce qu'encore une fois, tout cela est un peu nouveau. Est-ce qu'il existe ou n'existe pas des fichiers, des personnes qui sont repérées ou interdites de stade dans tel ou tel pays? Ça se fait beaucoup avec l'Allemagne maintenant et les hooligans allemands en sont conscients. Encore une fois, avec les pays de l'Est, je ne suis pas certain que la collaboration fonctionne de la même manière. Peut-être ceux qui sont directement membres de l'Union européenne et encore, je pense que le hooliganisme est un problème qui ignore les frontières, mais la réponse au hooliganisme, elle, connaît trop bien les frontières, c'est-à-dire qu'il y a parfois un manque de coopération. Autant les policiers et la justice française sont habitués à gérer les relations avec les Britanniques, avec les Allemands, avec les Belges sur ces questions-là, autant avec d'autres pays, c'est peut-être plus problématique. Alors, l'Europe de l'Est est un peu l'inconnu. Ce qui est intéressant, c'est que dans pratiquement tous les pays concernés, vous avez un fort phénomène d'identification nationaliste à la sélection nationale et une capacité des groupes potentiellement violents à s'unir pour cette cause nationale en quelque sorte. Après, vous avez aussi une autre dimension intéressante et quelque part inquiétante, c'est le fait que comme ces sélections et surtout les supporters de ces sélections n'ont pas eu par le passé trop l'occasion de se mettre en évidence, cet euro en France peut leur donner la mauvaise idée de se mettre en évidence. Et dans ce monde très hiérarchisé où les hooligans sont toujours en quête de réputation, c'est la rage du paraître, comme le disait un sociologue il y a quelques années, et bien dans ce monde-là, les supporters de l'Est peuvent être tentés de dire « Vous ne nous connaissez pas, on va vous montrer qui on est. » Donc les Anglais qui font référence depuis des dizaines d'années, et bien on va aller au contact des Anglais. Les Allemands qui sont considérés comme les spécialistes les plus pointus du hooliganisme en Europe, et bien on va vous montrer qui on est. Donc voilà potentiellement les risques que l'on peut évaluer. J'ajouterais à tous ces risques le risque plus classique et urbain français, j'allais dire, de réflexe d'autodéfense. On l'avait connu à Marseille en 98. La présence des Anglais à Marseille avait engendré de graves incidents, non seulement du fait des Anglais, mais principalement du fait des Marseillais. Des jeunes Marseillais notamment, des quartiers nord, qui s'étaient sentis un peu envahis sur leur propre territoire et menacés sur leur territoire et qui avaient réagi violemment. On peut se demander si dans certaines grandes villes françaises concernées par l'euro, l'arrivée de supporters plus ou moins envahissants, plus ou moins bruyants, plus ou moins violents, ne suscitera pas de la part de certaines catégories de jeunes une volonté d'en découdre pour dire voilà, on est chez nous, on est sur notre territoire. Il ne faut jamais oublier que dans le football, comme dans toutes les violences urbaines, on est dans une logique de territoire et d'identité.
Et c'est pour ça que c'est pas forcément le stade l'endroit le plus dangereux ?
Le stade est l'endroit le plus sûr par rapport au hooliganisme. Bien sûr, dans le passé, à une autre époque, il y a eu le Heysel, il y a eu des graves catastrophes et des incidents très violents dans les stades. Mais je dirais que ça, c'est une époque révolue, puisque les hooligans, contrairement à ce qu'on peut imaginer, ne sont pas totalement stupides et savent très bien que ce sont les endroits les plus surveillés en termes de caméras et qu'on les repérera d'une manière ou d'une autre. Les zones à risque ne seront pas non plus les fan zones qui seront, à mon avis, très surveillées. En revanche, les abords des gares, les quartiers où vous aurez beaucoup de cafés qui serviront de point de ralliement, tout ce qui est un peu périphérique et pas forcément le jour du match, mais par exemple la veille, là vous pouvez avoir potentiellement des choses un peu plus sérieuses.
Le stade Maksimir à Zagreb, c'est là que bat le cœur du football croate. C'est dans ce stade qu'évolue l'équipe nationale de Croatie et le Dinamo de Zagreb. C'est dans ce stade que se sont déroulés de très violents affrontements entre le Dinamo de Zagreb et l'Étoile Rouge de Belgrade, juste avant la guerre en Yougoslavie. Le stade Maksimir, c'est également l'antre des Bad Blue Boys, le redouté groupe de supporters du Dinamo. Dinamo Zagreb !
football.
La sous-culture des supporters de football a des racines profondes et lointaines en Croatie.
Dražen Lalić, sociologue à la faculté de sciences politiques de Zagreb.
C'était déjà une réalité. À la fin des années 70, c'est la Torcida, le groupe des supporters du Hajduk Split, est le plus ancien groupe de supporters de football dans cette partie de l'Europe. Il a été créé en 1950 et dans les années 80, l'ancienne Yougoslavie, dont la Croatie, a fait partie des quatre pays où le problème du hooliganisme dans le football était le plus sérieux, avec l'Angleterre, les Pays-Bas et l'Italie. À la fin des années 80 et au début des années 90, cette violence est devenue particulièrement sérieuse à cause de la pénétration des tensions interethniques et politiques dans le football. Ce fameux match à Zagreb, entre le Dinamo Zagreb et l'Étoile Rouge de Belgrade, a été le symbole du sérieux et de l'importance de la violence des supporters de football dans l'ancienne Yougoslavie et particulièrement en Croatie. Mais la violence n'est qu'un aspect de la sous-culture des supporters de football. À cette époque en Croatie, Serbie, Bosnie-Herzégovine, il y avait déjà une très forte tradition du supporterisme, avec des dizaines de milliers de gens dans les stades, une atmosphère spectaculaire. L'Étoile Rouge de Belgrade était championne d'Europe et le football et le championnat étaient de grande qualité en ex-Yougoslavie. Mais depuis 25 ans, beaucoup de choses ont changé en Croatie et dans le football, même si malheureusement la sous-culture des supporters de football est restée connectée à la violence. Pourtant, si l'on regarde les statistiques officielles, la violence des supporters de foot est en baisse depuis 10 ans par rapport à ce qu'elle était auparavant. De nombreux Bad Blue Boys, supporters du Dynamo et de la Torcida de Split, ont été des soldats très actifs, vraiment très actifs durant la guerre d'indépendance. Et peut-être les premières années après la guerre, cela a expliqué la mansuétude de la police, des hommes politiques et des juges dans les affaires de hooliganisme. Mais la nouvelle génération des supporters croates de football sont beaucoup trop jeunes par rapport à la guerre. Les vétérans de la guerre ont désormais 45-50 ans. Je ne pense pas que l'extrémisme de droite et le nationalisme sont les éléments les plus importants dans l'explication du comportement des hooligans en Croatie. Il y a des choses plus importantes et particulièrement la volonté collective d'accomplir des rituels comme le déplacement en commun pour se rendre au match, boire de la bière, soutenir son équipe, chanter pour elle, même si pour certains gars, la violence reste importante. Et s'il n'y a pas la possibilité de suivre ces rituels en Croatie, eh bien ils sont prêts à le faire à l'étranger.
Les Bad Blue Boys sont donc les supporters ultra du Dynamo Zagreb, un groupe à la réputation sulfureuse, mais qui dénonce également la corruption dans le foot croate et la brutalité policière. Parole de Bad Blue Boys.
Nous, on se déplace chaque semaine, on va à tous les matchs. Une semaine, la police est correcte, il n'y a pas de problème, ils nous laissent acheter de la bière. Et la semaine suivante, sans qu'on sache pourquoi, tout change. Et on n'aime pas ça.
Les gens de la sécurité dans les stades, ils sont corrects, ils font leur boulot, mais la police est très brutale.
La police est brutale, mais vous êtes brutaux aussi ?
Oui. On peut être très brutal.
C'est notre mode de vie. Si on va à un match et qu'il y a, je ne sais pas, des centaines de types de la Torcida et qu'eux aussi veulent se battre, on va donc se battre. On défend notre territoire et on se bat.
Mais vous pouvez comprendre que cela ne soit pas accepté par une partie de la société.
Oui, je peux comprendre ça. Mais je ne descendrai jamais dans la rue pour me battre avec vous, à partir du moment où vous ne me causez pas d'ennui. Il y a une différence avec les gens qui vont au match 3 ou 4 fois par an et nous qui allons à tous les matchs du Dynamo. On est des grands fans. Et je ne causerai jamais d'ennui aux gens honnêtes qui veulent juste se rendre au stade, voir jouer le Dynamo. Mais ceux qui se rendent au stade pour créer des problèmes, on leur créera des problèmes. On n'aime pas les provocations. Si tu supportes Hajduk Split et que tu viens d'un Zagreb avec, je ne sais pas, un maillot du Hajduk, c'est de la provocation et on n'aime pas ça. La chose la plus importante, c'est qu'on est des supporters du Dynamo. Ils sont des supporters du Hajduk Split. Mais quand on supporte l'équipe de Croatie, on a un accord. On ne crée pas d'ennui car c'est pour la Croatie et nous sommes tous croates. Donc dans ce cas, on est unis. Et on sera unis pour l'Euro en France.
Chez les rivaux du Hajduk Split, les supporters se sont organisés pour leurs droits et contre la corruption. Ils ont créé l'association Nash Hajduk, notre Hajduk. Juraj Verdoliak, journaliste et membre de Nash Hajduk.
Nash Hajduk n'est pas constitué de hooligans. Nous sommes des supporters réguliers qui sont depuis toujours des supporters du Hajduk. La fédération tente juste de nous mettre tous dans le même sac et de nous discréditer car nos actions sont directement un danger pour leur règne. Ils essaient juste de faire croire au grand public que toute action démocratique, que tout activisme des supporters dans le football est mené par des hooligans ou des opposants politiques. C'est dommage, c'est triste, car Nash Hajduk et ses principes sont un exemple de démocratie en Croatie. Et cela devrait être un modèle. Hajduk a également été fortement impliqué dans des affaires de matchs truqués et dans des tas d'affaires louches. Les dirigeants du Hajduk ont été tout aussi corrompus que ceux du Dynamo actuellement. Mais les supporters du Hajduk ont réagi et décidé qu'ils en avaient assez. Et c'est un bon moyen de montrer comment les clubs devraient être dirigés en Croatie. Nash Hajduk, c'est transparent, c'est démocrate. Et la direction, si bien sûr elle travaille indépendamment, le fait avec énormément de respect pour la communauté des supporters. Parce que les dirigeants savent que le club dépend de ses supporters. Donc, il y a un respect mutuel et une coopération. Mais comme je le dis, les gens de la fédération croate ont peur de ça. Car ils ont devant leurs yeux un exemple de comment cela devrait être. Et il est donc logique qu'ils essaient de discréditer le mouvement, juste pour conserver leur pouvoir. Hajduk a choisi le modèle des socios, selon lequel les décisions sont prises par la direction, mais sous contrôle des supporters qui élisent la direction. Et cela pourrait être un exemple. J'espère vraiment que le Dynamo reviendra à son tour sous le contrôle de ses supporters. Mais le niveau d'activisme en général en Croatie n'est vraiment pas élevé. Les gens n'aiment pas se mettre en avant parce qu'ils ont peur d'être discrédités et accusés de jouer un rôle politique, même si votre action n'est pas politique. Et donc, les gens préfèrent ne pas s'impliquer. Et je pense que Nash Hajduk, pendant ses 5 années d'existence, avec ses élections imposées au sein du club, peut être un exemple. Car désormais, Hajduk est dans une situation bien meilleure qu'il y a 5 ans. Donc merci aux supporters, pas uniquement ceux de Nash Hajduk, mais aussi les ultras de la Torcida ou les simples supporters qui se sont impliqués et qui sont parvenus à diriger ce club pour un meilleur avenir.
Le comité Helsinki croate pour les droits de l'homme assiste à de nombreux matchs en Croatie et note dans ses rapports tous les incidents, tous les propos racistes. Son président, Ivan Zvonimir Čičak.
La situation s'améliore de jour en jour. Ce n'est pas bon, mais c'est mieux. Le principal problème concerne notre équipe nationale. C'est toujours la même chose. Certains petits groupes dans le stade commencent à scander, par exemple, des slogans fascistes. En sociologie, on appelle cela des groupes non formels, des groupes non contrôlés. Des petits groupes, mais très bien organisés. Ils sont séparés dans le stade, mais ils sont très bien coordonnés. Coordonnés contre la Fédération croate de football, ils souhaitent prendre le contrôle des clubs et de la fédération. Et le racisme est juste une partie de cette culture, si on peut employer ce terme, culture des stades. Car le plus important est que nous connaissons une situation sociale très instable. En plus, nous assistons en Croatie à une très forte confrontation politique entre la droite et la gauche. Et ces propos dans les stades ne sont que la conséquence de ce qu'ils entendent dans les médias, où chaque camp s'invective. Vous êtes fasciste, vous êtes communiste. C'est juste et c'est triste ce qu'on pourrait appeler un détournement de la communication politique. Et ça, ça n'est pas bon. Et je pense qu'à un moment, cela va exploser. Je ne sais pas où et quand, mais cela va exploser. Ce n'est pas qu'une question de football, c'est la situation de la société. Nous destinons nos rapports à l'opinion publique. Le premier rapport est toujours envoyé au chef de l'État, puis au Premier ministre, au président du Parlement, le procureur général, la police, les médias et même les institutions internationales, parce que tout le monde doit savoir ce qu'il se passe et après, ils sont responsables s'ils ne réagissent pas. Donc, nous pensons que l'opinion publique est le plus important dans notre société, bien plus que le gouvernement, car vous savez, les gens dans les stades sont des électeurs comme les autres. Donc, c'est pour cela que de temps en temps, les politiciens font une sortie sur ces sujets, mais sans jamais être véritablement concret. Pour être concret, il faudrait changer les lois, donner plus d'armes légales aux forces de l'ordre et à la justice, et cela peut être très impopulaire. Et en plus, vous avez toujours le débat sur les droits de l'homme. Donc vous voyez, nous sommes en mauvaise posture, car nous devons prévenir les atteintes aux droits de l'homme et les protéger, y compris pour les supporters d'un match de football, mais en même temps, nous ne savons quoi faire. Nous ne pouvons pas être des assistants de la police, nous ne le sommes pas. Notre rôle est de contrôler la police et de toujours promouvoir plus de liberté. Et vous comprenez que ce n'est pas facile dans cette situation.
U zadnjih 10 godina bilježimo kontinuirani pad nereda.
Les incidents dans les stades croates ont continuellement baissé depuis 10 ans, avec beaucoup moins de violences physiques.
Dubravko Perec, officier en charge des violences sportives au ministère de l'Intérieur croate.
Il n'y a eu que 2 bagarres la saison passée, alors qu'avant, chaque match de football dégénérait en affrontements. Le seul problème sérieux qui subsiste aujourd'hui, ce sont les violences verbales et les fumigènes, même si l'usage des fumigènes est également en baisse grâce à des mesures plus strictes, comme la personnalisation de la vente des billets et l'installation de vidéosurveillance dans les stades. Je tiens à préciser que pour l'Euro, nous avons d'excellentes relations avec la police française grâce à l'attaché de sécurité intérieure pour les Balkans occidentaux de l'ambassade de France. Nous avons pu ainsi donner aux autorités françaises une liste de supporters croates à risque. Sur cette liste, il y a des supporters qui sont déjà interdits de stade, mais également des supporters qui peuvent présenter des risques. En mars dernier, nous sommes allés en France pour présenter nos 8 officiers de liaison qui seront sur place pour l'Euro, afin de permettre la meilleure sécurité possible de l'épreuve. Pour l'instant, il y a 112 supporters croates interdits de stade, et les jours de match, ils devront se présenter au commissariat en Croatie. Ils ne pourront donc pas quitter la Croatie. Quant aux autres, nous ne pouvons pas les empêcher de voyager, mais avec mes collègues qui m'accompagneront en France, nous les connaissons parfaitement et nous pourrons les repérer sur place et donner ainsi toutes les infos à la police française.
Ces dernières années, la situation s'est améliorée sur le front du hooliganisme, car la Fédération croate de football reconnaît désormais le problème. L'officier sécurité de la fédération, Miroslav Marković.
J'ai conscience que la Croatie a un problème lié au hooliganisme, mais comme beaucoup d'autres pays. Cependant, nous avons fait beaucoup d'efforts pour faire baisser le nombre d'incidents liés à ce phénomène. Ces dernières années, nous avons fait beaucoup de changements. Nous avons nettement amélioré la collaboration entre toutes les institutions concernées. Un travail de fourmi quasi quotidien pour arriver à de meilleurs résultats. Alors je sais que les supporters croates ont mauvaise réputation, ce qui est normal, vu qu'ils ont commis des actes répréhensibles et violents pendant presque toutes les rencontres internationales en Europe. Mais désormais, il existe une très bonne coopération avec nos collègues internationaux des instances du football, ainsi qu'avec le ministère de l'Intérieur croate. Nous organisons des séminaires, des conférences avec l'UEFA pour lutter contre ce problème de hooliganisme. Je pense donc que cette inquiétude au sujet des supporters croates est peut-être un peu exagérée. Et même si des incidents peuvent arriver, je ne crois pas à des incidents graves. Alors bien sûr, il est difficile de prévenir des bagarres arrangées à l'avance entre groupes de hooligans, mais je suis certain que dans les fan zones ou aux abords des stades, nous ferons le maximum pour éviter tout incident. Nous sommes vraiment préparés en amont, nous avons fait vraiment beaucoup d'efforts et on a pris beaucoup de mesures de prévention pour parvenir à cet objectif.
Alors, quel est le risque hooligan pour cet euro en France? Pour le mesurer, il faut bien en maîtriser tous les enjeux. Loïc Trégourès de Sciences Po Lille.
Il y a des variables locales qui sont que dans chaque pays, est-ce que beaucoup de personnes vont se déplacer, est-ce que ces personnes sont dangereuses ou pas. Et il y a la situation française d'état d'urgence, de préparation à la sécurité, d'éventuellement aussi de fatigue de la police qui ne passera pas son temps à jouer au chat et à la souris si jamais il y a des incidents de ce type. Donc j'ai à la fois tendance à ne pas être pessimiste en ce qui concerne les violences de masse comme on a pu en voir en Pologne il y a 4 ans avec les Russes. Bon, là ils sont forcément moins nombreux. D'un autre côté, mon inquiétude réside dans le traitement habituel et quotidien ou hebdomadaire plus exactement, que les forces de police françaises et que les préfets français font avec les supporters. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant d'interdictions de déplacement que cette année, ce qui signifie qu'on n'est pas capable ou on ne veut pas assurer un déplacement de 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes qui sont absolument pas dangereuse. Il n'y a pas de problème de hooliganisme en France, il faut bien comprendre ça. Le fait que des préfets ou policiers décident que c'est un risque à prendre que 50 personnes ou que 100 personnes viennent assister à un match de football, c'est un signal très inquiétant. Parce que là, il y aura des milliers de gens, et milliers de gens, et on ne pourra pas les parquer dans la fan zone. C'est des gens qui auront envie de vaquer en ville, qui auront envie d'aller boire des bières, et qui ne seront pas nécessairement violents. Loin de là. Sauf qu'il y aura ce contexte où on sera à l'affût parce qu'il y a la menace terroriste, parce qu'on a envie que tout se passe bien. Et donc, les incompréhensions peuvent partir vite. En général, quand les situations dégénèrent, c'est qu'il faut regarder du côté des variables, ce qu'on appelle les variables situationnelles. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe à un moment précis où il y a peut-être une incompréhension entre les acteurs, donc les acteurs de police, les représentants des supporters, il y a un acte qui est mal interprété, une menace qui est mal évaluée, et ça peut comme ça dégénérer assez rapidement. Ça, c'est un danger qui me paraît réel compte tenu du traitement habituel que les forces de police et que les préfets réservent aux supporters de football qui sont considérés, qu'ils soient violents ou pas, qui sont considérés comme des fauteurs de troubles potentiels. Si on n'est pas capable ou si on ne veut pas, tout au long de la saison, assurer les déplacements de 100 personnes ou de 200 personnes sous prétexte qu'il y a une foire ou sous prétexte que c'est les soldes ou sous prétexte que je ne sais quoi, bon courage. Bon courage parce qu'il y aura, plusieurs milliers de Polonais, Russes, Hongrois, Croates, Allemands, Anglais. Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il n'y a pas besoin de hooligans polonais pour ça. Ça nous regarde, nous, comment on gère l'espace public, qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation populaire, une fête dans Paris, il y a un risque sérieux que 10, 20, 50 personnes viennent et gâchent tout. Bon, ça nous regarde.
Vous écoutez le magazine de la rédaction sur France Culture, Hooligan, l'autre risque sécuritaire de l'euro. C'était un reportage signé Bruno Cadenne, réalisé par Annie Brault. Et nous sommes toujours avec nos deux invités, Anthony Cerveau, journaliste à SoFoot, et Éric Champel, journaliste à France Football. Une première question à vous, monsieur Champel, sur cette menace qui vient d'être décrite, là tout de suite, cette menace hooligan. Est-ce que pour vous, elle est vraiment réelle au cours de cet euro, notamment en raison de ces très nombreux supporters qui vont venir d'Europe de l'Est?
Elle est réelle par un effet mécanique, je dirais. N'oublions pas que c'est le premier Euro à 24 équipes et en qualifiant autant d'équipes, forcément on se retrouve avec de nombreuses nations de l'Est, Russie, Croatie, Pologne, Ukraine, Slovaquie, Hongrie et République tchèque, où ce sont des pays où on sait où il y a un hooliganisme assez radical, assez fort. Donc la compétition va aussi durer plus longtemps, un mois de compétition et encore ça veut dire encore plus de matchs, donc encore plus de risques, effectivement. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte.
Alors, 51 matchs exactement, si j'ai bien compté. C'est vrai que c'est beaucoup. Avant, il y avait 16 pays seulement qualifiés pour l'Euro. Anthony Cerveau, est-ce qu'effectivement, on pourrait qualifier cette culture du hooliganisme, et a-t-elle changé maintenant qu'elle s'est, en quelque sorte, déportée, si on peut dire, de l'Europe de l'Ouest, telle qu'on a pu connaître, je ne sais pas, en Angleterre, par exemple, et vers l'Europe de l'Est aujourd'hui?
Oui, on peut la caractériser. Elle est même étudiée. C'est une culture à part entière. Elle est née, en fait, dans les années 70-80 en Europe du Nord, notamment en Grande-Bretagne. Et elle s'est étendue en Hollande, en Allemagne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu une très forte lutte dans ces pays contre ces phénomènes, notamment lors des grands tournois, mais aussi en particulier lors de tous les week-ends dans les matchs. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus du côté de l'Europe de l'Est qu'on peut craindre ce genre de débordement. C'est beaucoup moins contrôlé. Il y a une culture dans ces pays-là qui est aussi très nationaliste. On affirme très fort son identité nationale. Et c'est ce qui pourrait laisser penser qu'il y ait des débordements, dans la mesure aussi où les hooligans de l'Est ont envie de faire leur preuve, entre guillemets, face aux hooligans anglo-saxons, de manière de dire qu'aujourd'hui, la suprématie, c'est eux qui l'ont, en quelque sorte.
Ils sont aussi forts que les Anglais ou les Allemands,
voilà,
pourraient l'être.
Comme le disait Philippe Broussard, on est aussi dans une volonté de prédominance, de réputation et du coup de suprématie. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de hooligans de l'Est qui veulent prouver ça aux Européens de l'Ouest.
Une question de Bruno Cadenne.
Est-ce qu'on peut avoir également des risques liés à la situation géopolitique en Europe? On pense par exemple aux Ukrainiens face aux Russes, aux Polonais face aux Allemands, face à ce genre de choses. Est-ce que la géopolitique va peut-être déboucher sur des violences?
Éric Champel.
Ben oui, la question est posée, sachant quand même que les Ukrainiens vont devoir obtenir des visas pour venir en France, donc ce qui va permettre un filtrage. Il faut savoir aussi que c'est un championnat d'Europe, que les billets qui sont accordés aux différentes nations sont limités. Donc on peut aussi, au travers des billets, un petit peu avoir un filtrage et savoir à qui ces billets ont été vendus. Mais c'est vrai que le côté géopolitique va forcément jouer un rôle et va rendre encore plus intense les rivalités entre les pays. Et puis il faut pas oublier qu'il y a aussi un Angleterre-Pays de Galles, par exemple. Bon, ça reste dans l'Europe de l'Ouest.
Mais là aussi,
il y a aussi des rivalités très fortes.
Ouais. Anthony Cerveau.
Ouais, il y a d'ailleurs certains craignent. Bon, le scénario est hautement improbable, mais on ne sait jamais. Un Ukraine-Russie en quart de finale, si l'Ukraine finissait meilleure troisième de son groupe et que la Russie finissait seconde, ça serait à Saint-Denis. Et là, effectivement, on pourrait s'attendre à de très gros débordements. Après, de ce point de vue-là, on pourrait aussi rajouter, par exemple, dans le hooliganisme allemand qui était en perte de vitesse, la répression avait eu des effets. Aujourd'hui, il y a eu un regain autour du mouvement Pegida, qui concentre
mouvement raciste, hein,
voilà,
on peut
et
le dire,
surtout anti-islamisation de l'Europe, et dans lequel on croise beaucoup de hooligans, notamment d'Allemagne de l'Est, enfin d'ex-Allemagne de l'Est, autour de Dresde ou même Berlin. Et ça pourrait croiser, c'est là où la problématique géopolitique pourrait effectivement venir s'inviter d'une certaine manière.
Se superposer
manière,
au moins au hooliganisme traditionnel. Est-ce qu'on peut peut-être quand même faire la distinction entre les hooligans et les ultras? Tout à l'heure, vous nous expliquiez qu'effectivement, c'est pas tout à fait la même chose. Hein.
Ouais, en fait, la culture ultra est née en Italie à la fin des années 60. Et c'est une façon de supporter très fervente, dans laquelle les supporters revendiquent l'attachement très fort à une ville, à un club, et où ils veulent affirmer leur soutien de façon très visible et très intense, de par l'animation, de ce qu'on appelle des tifos, de par des chants, l'allumage de fumigène. Et c'est vrai que le hooligan est quelqu'un qui est beaucoup plus tourné vers la confrontation physique, qui aime le foot aussi. C'est vrai qu'on a souvent dit que c'était juste un prétexte, le foot, pour les hooligans, pour venir
s'affronter. Ils sont vraiment fans, en fait.
Non, en tout cas, dans la culture ouvrière anglaise au départ, il y a vraiment un attachement au football. Mais c'est vrai qu'ensuite, il y a la volonté d'en découdre, et notamment d'affirmer sa suprématie à l'échelle de ville ou de club.
On en a parlé dans le reportage, et en particulier à la fin, lorsque les responsables de la sécurité du ministère de l'Intérieur en Croatie et de la Fédération disaient « Oui, mais vous inquiétez pas, on a quand même une collaboration avec les services de police français ». Est-ce que cet aspect qui a quand même été développé dans le magazine, est-ce qu'il vous inquiète? Est-ce que les relations entre les polices anglaises, françaises, belges, allemandes existent depuis longtemps? Est-ce que vous craignez qu'avec avec les polices polonaises, hongroises, tchèques, ça soit un petit peu plus difficile.
Éric Champel.
Je pense que c'est le fond du problème. Philippe Broussard l'a bien soulevé, l'a bien pointé, c'est de savoir quelle a été la nature de la collaboration avec tous les pays de l'Est, quelle a été la nature et l'importance et la précision des informations fournies, parce qu'on sait qu'au niveau de tous les pays d'Europe de l'Ouest, il y a une collaboration qui fonctionne et on arrive à identifier les hooligans à risque. Est-ce que ce sera le cas pour les hooligans qui vont arriver d'Europe de l'Est? Est-ce qu'on pourra en amont, quelle a été la qualité du travail effectué en amont? C'est un des enjeux du traitement du hooliganisme au cours de cet euro.
Anthony Cerveau là-dessus.
Oui, je rajouterai un élément, c'est que notamment en 2012 ou 2013, le PSG avait reçu le Dynamo Zagreb, les supporters qu'on a vu dans le reportage, les supporters du Dynamo Zagreb, les Bad Blue Boys, donc étaient interdits de venir en France, ils devaient être bloqués aux frontières, et moi j'avais pu passer la soirée avec 4 supporters des Bad Blue Boys qui s'étaient baladés dans Paris et qui en fait tout simplement avait traversé la frontière croate et avait pris jusqu'en Hongrie et avait pris l'avion en Hongrie pour se rendre à Paris-Beauvais. Ils avaient loué une voiture à Paris-Beauvais et
personne
ils étaient ensuite venus.
Et
personne les avait arrêtés. J'ai passé la soirée avec eux. Ils avaient même voulu aller jusque près du Parc des Princes. Bon, le dispositif policier était bien trop important pour qu'il se passe quoi que ce soit, mais ils étaient libres de leur mouvement et de leurs gestes. Donc, on peut aussi penser qu'ils ont des stratégies pour déjouer d'une certaine manière même le contrôle de la police.
Et oui. À ce sujet, en Croatie, certaines personnes étaient inquiètes au sujet de la diaspora croate. C'est-à-dire qu'il y a énormément de Croates en Allemagne, mais également beaucoup plus lointains, au Canada et en Australie. Et certaines personnes avaient peur que des gens de la diaspora croate, y compris venant de très loin d'Australie ou du Canada, puissent venir en France avec des passeports canadiens et avec des passeports australiens, donc étant totalement en dehors des radars de la police, et que eux pourraient créer des ennuis. Et il y a beaucoup de diaspora dans les pays de l'Est ailleurs, et ça peut être un danger, parce qu'eux, ils ne sont pas contrôlés par leur police.
Alors Éric Champel, je voudrais votre sentiment sur la France. Est-ce qu'il y a en France des phénomènes de hooliganisme? On a tendance à dire que non, et pourquoi?
Non, parce qu'on est surtout sur des phénomènes ultra. Par contre, il y a quelque chose de très intéressant, de très important qui a été dit dans le reportage, c'est le traitement du mouvement ultra et l'absence, je dirais, de culture de la part de la police de face au phénomène, au débordement de supporters, puisqu'on est, la Ligue professionnelle avait décrété à un moment donné, la saison dernière, c'est-à-dire tolérance zéro, et on interdit pratiquement tous les déplacements de supporters. Donc ça peut effectivement poser problème à un moment donné, c'est-à-dire que la police va tellement être sous pression, va tellement être sollicitée qu'effectivement, il y a le risque de surévaluer ou de sous-évaluer certains débordements et qu'à ce moment-là, il y a une espèce d'engrenage de la violence. Ça, c'est un point important à prendre en considération. Autre chose, il faut savoir que ça a été dit aussi, le danger ne sera pas dans les fanzones ni autour des stades, mais il sera dans les transhumances, les flux. Les supporters vont se déplacer pour aller d'un stade à l'autre, d'une ville à l'autre. Et il y a effectivement des risques de rencontres en rase campagne qu'on ne peut pas prévoir.
Alors, pas de hooliganisme en France, sauf peut-être au PSG. Je vais vous demander votre sentiment, Anthony Cerveau. Mais là-dessus, effectivement, comment fait-on pour limiter ces phénomènes ultra, peut-être, sinon hooligan? Au PSG, notamment, ça a beaucoup changé depuis l'arrivée des Qataris, quand même.
Oui, il y a eu la fin du... Le mouvement hooligan en France, il est surtout situé à Paris. Il était dans l'ancienne tribune Boulogne, autour d'un noyau, on va dire, radical, qui faisait partie du Cop of Boulogne. Et c'est vrai que la crainte qui tourne notamment à l'égard des hooligans parisiens, c'est un contentieux qui existe à la fois avec les supporters turcs de Galatasaray, qui datent de 1996 et de 2001, lors de rencontres entre le Paris Saint-Germain et Galatasaray, et qui peut laisser penser... En plus, le vrai match à risque, de mon point de vue, c'est Turquie-Croatie ce dimanche, parce que les fans turcs vont venir au Parc des Princes, qui était l'ancien territoire des hooligans de Boulogne.
Avec cette fameuse tribune, ouais, bien sûr.
Avec cette fameuse tribune Boulogne. Et on peut effectivement légitimement penser que les hooligans de Boulogne, qui en plus connaissent parfaitement le terrain, ça a été leur terrain de jeu d'une certaine manière pendant de longues années, essaie d'en découdre avec les fans turcs. Et à cela s'ajoute aussi un contentieux avec les Bad Blue Boys de Zagreb, puisqu'il y avait eu, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2012 ou 2013, un affrontement près de Bastille, dans le quartier de Bastille à Paris, entre une cinquantaine de hooligans parisiens et des fans croates.
Alors Bruno Kaden, une question de votre part, et je voulais aussi vous interroger, Bruno, sur cette décision finalement d'interdire les déplacements de plein de supporters dès que la police française pense que c'est à risque.
Oui, et d'ailleurs, on en a parlé, et ça a été dit aussi dans le reportage. Si en France, pour 100-200 supporters qui ne sont pas hooligans, on interdit les déplacements, que va-t-on faire avec des milliers de gens qui, eux, peuvent potentiellement être dangereux? Ça, c'est un vrai problème qui risque de se dérouler, d'autant plus que sur les réseaux sociaux ces derniers temps, et je pense que nos invités sont au courant, on voit de plus en plus ces dernières semaines beaucoup d'agitation, on va dire, sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur cet euro en France, où on a l'impression que beaucoup de gens vont se donner rendez-vous dans des groupes particulièrement violents.
Agité, oui. Éric Champel.
Deux choses. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, n'a pas exclu. Il a dit « nous nous interdisons aucune mesure préventive ». Donc il n'a pas exclu d'interdire le déplacement de supporters durant l'euro. Il y a même la possibilité d'organiser des matchs à huis clos. Par rapport à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, je pense aussi quand même qu'il faut faire attention, il faut faire la part des choses. Il y a peut-être une part de provocation, on l'a vu avec l'anglais The Pig of Marseille, James Sheller, qui a d'ores et déjà annoncé qu'à l'occasion d'Angleterre-Russie, je crois que c'est demain à Marseille, il viendrait pour casser du musulman. Je pense qu'il y a quand même une part
il
de...
Il a annoncé à qui
Il a annoncé aux Anglais, c'est le Daily Mail qui s'est fait l'écho de ça. Ça fait beaucoup de bruit en Angleterre, je pense qu'il y a aussi une part de provocation dans tout ça. Les hooligans et les différents groupes profitent évidemment de l'euro pour faire aussi leur publicité.
Alors Anthony Servaux, si on juge que c'est excessif, disons, de limiter de façon autoritaire les déplacements des supporters, comment faire? C'est quand même une vraie question, parce qu'on ne peut pas non plus laisser des affrontements se dérouler.
Non, bien sûr. Pour autant, alors en fait, moi, il y a une tradition de maintien de l'ordre à la française qui me semble pas forcément de nature à éviter les incidents, dans la mesure où il y a depuis les grands tournois organisés depuis 2004, la tradition policière dans tous les pays, c'est une théorie qui a été développée par Nicolas Hourcade dans plusieurs articles, il est sociologue spécialiste des ultras, c'est la théorie du low profile, en fait, que la police fait profil bas, elle se tient à l'écart et elle surveille un petit peu ce qui se passe, mais sans trop se montrer, sans créer une forme d'escalade en quelque sorte. Et c'est vrai que le maintien de l'ordre à la française se passe davantage par de la visibilité policière, voire de l'intervention, voire même du contact, en tout cas dans le cadre des relations avec les supporters. Et ça pourrait tout à fait faire dégénérer des situations avec des centaines de fans, pas forcément hooligans, mais un peu, on va dire, joyeux par l'alcool, par l'adrénaline,
excité,
voilà.
Oui.
Et effectivement, le fait d'avoir des policiers peut-être un peu trop présents, un peu trop visibles, ça peut créer, de mon point de vue, des tensions et une certaine escalade.
Une question de Bruno Cadenne.
Est-ce que justement les autorités n'ont pas essayé de résoudre ce problème par ce dont on a entendu parler dans le reportage avec l'exemple croate, avec des policiers du pays qui seront au contact avec les supporters pour essayer de régler la situation avant qu'elle ne dégénère?
Éric Champel.
Bien sûr, il y aura ces fameux spotters dans toutes les délégations.
Donc des gens qui sont chargés de regarder
ce
qu'ils observent.
Oui, ce sont des policiers qui sont attribués, qui sont attachés à chaque délégation et qui sont censés connaître et reconnaître les supporters les plus dangereux. La question, une fois encore, on sait très bien qu'en ce qui concerne les pays d'Europe de l'Ouest, ils sont tout à fait compétents et ils connaissent les populations dangereuses. Quelle est la capacité de ces gens-là en ce qui concerne les pays d'Europe de l'Est? De quelles informations disposent-ils? Quel est, quelque part, leur champ de connaissance de ces gens-là? On va le découvrir. Je voudrais dire aussi, ça a été dit tout à l'heure et j'ai trouvé ça très intéressant, on est aussi dans un contexte social de tension et de provocation. On s'aperçoit que toutes les dernières manifestations, que ce soit Paris ou ailleurs, ont dégénéré. On a parlé aussi de cette notion de territoire et d'identité. Est-ce que tout ça va pas faire un cocktail explosif? C'est une question qu'on peut se poser et ça ajoute un petit peu au risque de dérapage.
Alors on sait que tout récemment a été votée une loi sur le supporterisme. Alors moi j'avoue que c'est un mot que je connaissais même pas vraiment avant de préparer cette émission. Donc une loi sur le renforcement du dialogue avec les supporters et sur la lutte contre le hooliganisme. Un mot peut-être quand même de cette culture en France qui a l'air assez spéciale, où il n'y a pas vraiment de dialogue entre les clubs de foot et les associations de supporters.
Oui, c'est notamment à l'initiative de la Ligue professionnelle de football qui a toujours refusé. Frédéric Thiriez, là-dessus, a été toujours très clair, de façon parfois un peu étonnante, de ne pas vouloir ouvrir le dialogue avec les associations de supporters. Et en fait, c'est ce qui a motivé les associations de supporters à passer par le volet législatif. En fait, on nous laisse pas rentrer par la porte, ben on va rentrer par la fenêtre, en quelque sorte. Et ils ont sensibilisé plusieurs politiques de leur région en leur disant, voilà, on n'a aucun dialogue, imposez-le par la loi. Cette loi est venue justement répondre à l'absence de dialogue entre les instances du football et les supporters.
Éric Champel, là-dessus, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça va faire progresser, avancer les choses?
Bah évidemment, je crois que les supporters doivent figurer parmi les familles et les acteurs du foot. Je pense que ça doit même aller plus loin. N'oublions pas ce qui se passe en Espagne, où il existe le phénomène socios, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les socios, les supporters, sont de véritables acteurs, leur mot à dire, dans la vie des clubs. Il y a certains clubs en France, notamment celui de Saint-Étienne, où les dirigeants seraient tout à fait favorables à ce type de culture. D'autres personnes aussi y travaillent, de façon à ce qu'il y ait même une forme d'action populaire à l'avenir dans les clubs de foot. Quand on voit l'état des finances des clubs, je pense que ce serait une bonne solution.
Ça peut être une bonne idée. Une dernière question de Bruno Cadenne, oui.
Justement, là-dessus, est-ce que finalement, c'est pas vers quel football on veut aller? Si on a des stades ultra-modernes où il n'y a que des familles qui peuvent aller parce que les prix des places sont chers, ou des touristes étrangers, comme maintenant on le voit en Angleterre, est-ce que ça ne va pas être un autre football finalement que celui qu'on a connu, où on pouvait y aller en amenant ses enfants et où la passion se transféré de génération en génération.
Éric Champel.
Oui, enfin, on voit ce qui s'est passé au Parc des Princes, où il n'y a pratiquement plus que des VIP. C'est un public virtuel.
Après, il n'y a plus que des VIP, oui.
Voilà, je pense que en acceptant les supporters et en permettant aux supporters d'avoir leur mot à dire, c'est au contraire la garantie de faire en sorte que le foot puisse encore rester un sport populaire. J'ajouterai que je crois savoir qu'il reste des places pour le match d'ouverture ce soir au Stade de France.
Ça, c'est une nouvelle, c'est un scoop.
À 400 euros. Voilà.
Oui, on voit quel genre de public va pouvoir s'installer là-bas. Anthony Cerveau, sur cette culture qui est en train de se modifier quand même dans les stades français. En tout cas pour le PSG au Parc des Princes. C'est sûr que les prix ont beaucoup augmenté depuis l'arrivée du Qatar.
Bien sûr, on a tendance du coup à avoir une homogénéisation du public. C'est-à-dire que normalement, le stade est un lieu où on peut retrouver des catégories populaires, des catégories plus aisées. Tout le monde y a sa place. Et c'est vrai que ça a tendance à faire fuir et même à empêcher une certaine partie du public fervente qui a envie d'animer son stade d'y participer. Et de ce point de vue-là, le Parc des Princes ne donne pas le meilleur exemple.
Mais est-ce que ça permet quand même de réguler la violence, puisque c'était le sujet de l'émission?
Certes, ça permet de réguler la violence, mais ça aseptise en même temps toutes les revendications, toutes les animations. Est-ce que c'est de ce stade dont on veut? Je ne suis pas certain.
Un tout petit mot, Éric Champel, là-dessus, c'est une avancée ou c'est un recul finalement, cette aseptisation des stades?
C'est un recul parce qu'on s'aperçoit, on prend toujours les Allemands comme modèle. Bon, c'est une bonne chose. Dieu sait qu'ils ont des qualités, ces gens-là. Mais en Allemagne, le foot reste un sport éminemment populaire où les supporters sont à la fois considérés et ont leur mot à dire. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe au Bayern où tous les ans, à Noël, les joueurs vont faire le tour des clubs de supporters dans toute la Bavière. Donc ça, c'est le lien. En France, le lien avec les supporters s'est malheureusement rompu. Peut-être parce qu'à un moment donné, la Ligue s'est mise dans une posture trop radicale.
On va voir si tout ça repart grâce à l'Euro qui commence donc ce soir. Merci Éric Champel, Anthony Cerveau d'avoir participé à ce magazine avec de plaisir. La rédaction Hooligan, l'autre risque sécuritaire de l'Euro. C'était un reportage signé Bruno Cadenne. Merci à Bruno qui est avec nous donc en direct de Bastia. Reportage réalisé par Annie Bro à la technique ce soir. Jean-Frédéric, vous pouvez réécouter cette émission demain matin à 6h, mais également pendant 1000 jours sur notre site franceculture.fr, la podcaster aussi. Et sur le site donc franceculture.fr, vous retrouverez quelques bonus et notamment une carte du risque hooligan en Europe élaborée par Camille Renard.